Puis vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes vendredi, vous connaissez le principe du vendredi, c'est la libre antenne, vous pourrez dans 30 minutes commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, internationale, africaine, vous savez que tous les sujets nous intéressent, donc où que vous soyez à travers le monde, parlez-nous de l'actualité dans votre pays, dites-nous quels sont les sujets qui font débat chez vous. Vous êtes les bienvenus, on vous attend au standard 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Nous vous attendons également sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. En tout cas, ce matin, nous avons des réactions sur l'opération terrestre lancée hier soir par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, des commentaires sur la situation en Centrafrique avec un forum qui doit s'ouvrir la semaine prochaine à Brazzaville, forum très attendu. Les négociations de paix concernant le Mali qui se déroulent en ce moment en Algérie suscitent également des réactions. Donc nous vous donnerons la parole et nous aurons l'occasion de débattre de tous ces sujets. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec la rédaction des RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions concernant l'Irak. Le pays, vous le savez, est au bord de l'implosion. Dosso, bonjour.
Bonjour, Juan.
Merci de nous écouter sur les ondes courtes. Vous nous appelez de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à 400 kilomètres au nord-ouest d'Abidjan. Vous êtes à Mankono. Et vous avez donc des questions concernant l'Irak.
Effectivement. Juan Nouri al-Maliki, le premier ministre irakien, est très critiqué et beaucoup voient en son départ du pouvoir une solution pour la paix en Irak. À cet effet, Juan, j'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, quel est le problème avec Nouri el-Maliki? Ensuite, que lui reproche-t-on exactement? Est-ce qu'il bénéficie de soutien pour rester toujours Premier ministre?
Oui.
Et quel impact lui?
Et on va déjà répondre à cette série de questions. Effectivement, on va essayer de comprendre pourquoi Nouri al-Maliki est critiqué. Et vous allez le voir, il est critiqué de toutes parts. Louis Bellenfant du service international est à mes côtés. Bonjour Louis.
Bonjour Juan, bonjour Dosso.
Alors, Premier ministre, effectivement, qui accumule les critiques pour sa gestion de la crise irakienne. Quel est le problème avec lui?
Alors, il est critiqué de partout en Irak et à l'étranger. Le problème avec Nouri al-Maliki, c'est qu'on lui reproche d'avoir conduit le pays dans l'impasse, et plus grave encore, d'avoir favorisé la progression de l'État islamique en Irak et au Levant. Alors pourquoi Nouri al-Maliki? Il faut savoir que c'est un chiite, comme une majorité d'Irakiens. Il est au pouvoir depuis 2006. Le problème, c'est qu'avec les années, il a mené une politique de plus en plus autoritaire et sectaire, au détriment des minorités kurdes et sunnites. Chez les sunnites, on a très mal vécu cette marginalisation. C'est une marginalisation aussi bien politique qu'économique. On l'a très mal vécu. Donc, ce qui a poussé les sunnites, qui représentent 35% de la population irakienne, ça les a poussés vers la contestation. C'est une contestation d'abord pacifique, puis peu à peu, ça monte, et ça devient une insurrection, à tel point qu'il y a des clans sunnites qui se sont rapprochés, qui ont conclu des alliances avec l'État islamique en Irak et au Levant.
Ouais. Nouri al-Maliki dispose encore de soutien pour rester Premier ministre ou pas?
Il en a de moins en moins. Hein. Alors d'abord, au niveau extérieur, on va prendre l'Iran. L'Iran, allié traditionnel, l'Iran chiite, allié traditionnel de Nouri al-Maliki. L'Iran, aujourd'hui, il est prêt à soutenir un autre candidat que Nouri al-Maliki. Bon, attention, hein, si Nouri al-Maliki se présente, l'Iran le soutiendra. Autre allié extérieur de Nouri al-Maliki, les États-Unis. C'est très tendu depuis 2011. Il y a beaucoup de républicains et de démocrates qui, aux États-Unis, demandent le départ de Nouri al-Maliki. Mais ça, c'est pas la posture officielle. La posture officielle, c'est on demande un gouvernement d'unité nationale, gouvernement refusé par Nouri al-Maliki.
Alors, ce qui est intéressant à souligner tout de même, c'est que Nouri al-Maliki est également contesté dans sa propre communauté. C'est-à-dire qu'il est contesté par les chiites.
Oui, et ça, c'est le plus problématique pour Nouri al-Maliki. Chez les chiites, il ne fait pas du tout l'unanimité. Il y a plusieurs hauts dignitaires chiites qui ont demandé son départ. Il y en a même un qui l'a comparé à Saddam Hussein. Il parle de lui comme le nouveau Saddam, un nouveau dictateur. Il y a aussi le chef de la plus haute, une des plus importantes milices chiites irakiennes, qui a dit que son départ serait salutaire pour le pays. Alors Nouri al-Maliki, ça va être très compliqué pour lui, mais lui, pour le moment, il tient à se maintenir à son poste.
Et voilà. Il veut même briguer un troisième mandat.
Voilà, ouais. Il est candidat à sa propre succession et il dit qu'il a pour lui la légitimité des urnes puisque c'est son parti qui a remporté les législatives en avril dernier.
Effectivement, Dosso, je vous ai coupé la parole, mais vous aviez une autre question, une dernière.
Une dernière question, et quel impact son départ pourrait-il avoir sur l'avancée de l'EIIL en Irak?
Alors, l'impact d'un éventuel départ, Louis Bel-Enfant, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal, qu'est-ce qu'on peut répondre?
Alors là, c'est compliqué de répondre, hein. Je ne suis pas devin. En revanche, je peux émettre une hypothèse. Hein. C'est, si on a un nouveau Premier ministre, de toute évidence, il sera chiite. S'il mène une politique de main tendue vis-à-vis des minorités sunnites et kurdes, alors peut-être qu'il va réussir à obtenir leur soutien face à l'État islamique, d'autant que les sunnites ont dit qu'ils sont prêts à négocier avec les chiites à partir du moment où Nouri al-Maliki n'est plus candidat au poste de Premier ministre.
À suivre donc. Merci Louis Bel-Enfant, bonne journée à vous. Merci Dosso de nous écouter à Mankono, en Côte d'Ivoire, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions et n'hésitez pas à appeler nous. Toutes vos questions nous intéressent, aucune de vos questions n'est ridicule. Donc rejoignez-nous, on vous attend évidemment au standard. Jean-Pierre Boris du service économique du service RFI est à mes côtés. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Juan.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Herman nous appelle du Cameroun. Il est à Douala, où il pleut à verse, me dit-on. Bonjour Herman.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons. Vous avez des questions concernant la hausse des prix du carburant dans votre pays?
Effectivement. Alors, depuis quelques jours, le prix des denrées alimentaires a augmenté suite à la hausse du prix du carburant. Ma question, Juan, est quelles sont les mesures d'accompagnement que peut prendre le gouvernement pour éviter cette inflation?
Alors, Jean-Pierre, c'est vrai qu'au début du mois, le gouvernement camerounais a procédé à une augmentation des prix des produits pétroliers, ce qui suscite, on le voit bien, une certaine tension sociale, hein, les gens grognent. On peut expliquer, rappeler aux auditeurs pourquoi le gouvernement justifie, enfin, comment il justifie la hausse des prix du carburant?
Écoutez, je vais vous donner deux chiffres qui expliquent, pour une bonne part, la décision qui a été amenée à prendre le gouvernement camerounais. Le budget, globalement, de l'État camerounais pour 2014, c'est 3 312 milliards de francs CFA. Et le poste consacré aux subventions des produits pétroliers, c'est 450 milliards.
Ah oui.
Plus de 13% de toutes les dépenses de l'État camerounais est consacré à subventionner les produits pétroliers.
C'est-à-dire que l'essence, jusqu'à présent, était subventionnée.
Voilà, c'est-à-dire que ça permettait de baisser le prix de l'essence à la pompe. Pourquoi est-ce que cette décision avait été prise? Et quand, en 2008... au moment où il y avait eu ce qu'on a appelé des émeutes de la faim, des manifestations contre des prix alimentaires trop chers à la suite de hausses de prix très fortes sur les marchés mondiaux, en particulier pour le riz, mais aussi pour le blé, que le Cameroun importe en quantité. Et donc, la mesure qui avait été arrêtée à l'époque, c'était subventionner le prix du fuel et des carburants divers pour permettre aux intermédiaires camerounais de répercuter cette baisse du pétrole sur les prix à la consommation et donc de faire, en tout cas de stabiliser, voire de baisser certains prix à la consommation pour la population. Aujourd'hui, 6 ans après, cette mesure revient beaucoup trop cher.
Si ça représente 13% du budget.
C'est énorme, c'est insoutenable pour n'importe quel gouvernement, pour n'importe quel État. Et d'ailleurs, les bailleurs de fonds dans toute l'Afrique, d'ailleurs le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, dans toute l'Afrique, ces bailleurs de fonds poussent les gouvernements africains à renoncer à ces subventions qui sont beaucoup trop chères et qui ne permettent pas de distribuer équitablement les ressources de l'État. Parce que l'un des grands arguments de la Banque mondiale, c'est que ces subventions ne profitent pas équitablement à tout le monde, mais profitent en fait essentiellement aux classes les plus favorisées de ces pays-là.
Et pas aux pauvres.
Et pas aux pauvres.
Alors, depuis 3 semaines, les syndicats, la population demandent des mesures d'accompagnement pour faire face effectivement à cette augmentation des prix du carburant. Que propose le gouvernement?
Alors, j'ai pu m'entretenir in extremis hier soir avec le ministre du Commerce du Cameroun, M. Luc Magloire Barga, qui dément, lui, qu'il y ait une hausse des prix.
Ah bon ?
Il me dit, je suis sur le terrain, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de hausse des prix.
C'est-à-dire que les carburants ne sont plus subventionnés, mais malgré tout, il n'y a pas de hausse
constatée.
Voilà, selon
lui, il n'y a pas de hausse des prix. Et je ne l'ai pas encore reçu, mais c'était engagé à me transmettre un accord signé avec un syndicat de transporteurs qui s'engageait à ne pas répercuter la hausse des prix du carburant sur le prix du transport. Cela dit, c'est évidemment pas le cas partout. Mmh. Par exemple, les transporteurs urbains, eux, ont été autorisés à répercuter la hausse, mais une grande partie de la population n'a pas les moyens de payer cette hausse. C'est-à-dire que le prix du ticket à Yaoundé, par exemple, est passé de 200 à 250 CFA, et les passagers n'ont pas les moyens et payent donc moins.
D'accord. Herman, vous êtes à Douala. Vous avez constaté une augmentation des prix du carburant ou pas encore ?
Effectivement, on a déjà constaté parce que le prix du transport, par exemple, est passé de 200 francs à 250 francs.
D'accord. Donc, il y a quand même une petite augmentation.
C'est parce que les transporteurs ont été autorisés. Mais ce que dit le ministre, c'est que ces hausses de prix ne sont pas répercutées, par exemple, sur les denrées alimentaires, etc.
Bon. Vous souhaitez nous rajouter...
Oui, alors, la question d'Herman, c'était les mesures d'accompagnement. Oui. D'abord, ce qu'il semble, c'est que le gouvernement n'a pas préparé l'opinion à cette hausse et n'a pas pris de mesures, par exemple, pour encadrer les prix des denrées alimentaires. Les autres mesures d'accompagnement sont des mesures à plus long terme. Par exemple, promouvoir la production agricole pour éviter d'avoir autant à importer, essayer de mettre en place des systèmes de raffinage qui permettraient d'éviter d'importer des produits raffinés, puisque le Cameroun produit un peu de pétrole, et donc pourrait réduire sa facture d'importation pétrolière, ce qui allégerait évidemment la facture pour les consommateurs.
Vous êtes à Douala, à Yaoundé, quelque part au Cameroun. Dites-nous comment vous vivez justement la suppression des subventions du carburant. On a envie de vous entendre. Profitez de la libre antenne dans 20 minutes sur l'antenne des RFI. Jean-Pierre Boris, merci beaucoup.
Un dernier mot,
allez-y.
Oui, c'est pas le seul pays où ça se produit, bien sûr. Hein. Le Togo, il y a quelques années, la Zambie, le Nigeria, où il y a eu même des manifestations assez violentes pour protester contre ces suppressions de subventions. Le Cameroun n'est que le dernier des pays en date, en Afrique, à connaître cette évolution.
Merci Jean-Pierre. Bonne journée Herman. Vous nous appeliez de Douala au Cameroun, 10h22 à Paris. On va parler football. Alejandro Valente, le chef du service des sports, est avec nous au téléphone. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions concernant la fédération nigériane de football. Bonjour Bakary.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Ouagadougou, nous vous écoutons.
Il y a deux questions concernant la fédération nigériane. J'ai appris que cette fédération a été suspendue par la FIFA. Quelles sont les conséquences de cette suspension sur le rugby nigérian? La deuxième question, est-ce que si la justice nigériane estime que la fédération, le dirigeant de la fédération a commis des malversations, n'a-t-elle pas en droit de les convoquer?
Alors, ça c'est une bonne question, effectivement. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe au sein de cette fédération du Nigeria, puisque le pays a été suspendu par la Fédération Internationale de Football. Alejandro Valente, c'est bien ça. Le Nigeria, à l'heure actuelle, ne peut pas participer à la moindre compétition internationale de football.
Effectivement, la suspension a été prise par les comités d'urgence de la FIFA la semaine dernière. Cela dit, depuis, le gouvernement a pris les mesures qu'il fallait pour redresser la situation. Il a répondu aux exigences de la FIFA et on s'attend à une levée de cette suspension dans les heures qui viennent.
Ah ah, d'accord.
Mais pour comprendre, hein, grosso modo, lors du retour de l'équipe du Nigeria du Brésil, le gouvernement, le ministre des Sports, avait interpellé assez vertement le président de la fédération, lui demandant des explications sur l'affaire des primes, sur la gestion des ressources de la fédération. Et dans la foulée, un tribunal avait suspendu le président et tous les membres de la fédération et le gouvernement avait nommé une équipe pour le remplacer. Or, la FIFA estimait qu'il s'agissait d'une ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération et comme elle le fait systématiquement, il avait donc suspendu le pays en attendant que la situation soit rétablie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? le président Maïgari, qui est en fin de mandat, doit organiser maintenant des élections pour que une nouvelle équipe, ou la même, éventuellement, puisse entamer un nouveau mandat de 4 ans. Et voilà, le président Maïgari ayant été rétabli dans ses fonctions, on peut penser que la FIFA va lever sa suspension assez rapidement.
Probablement dans la journée. On suivra ça évidemment de près avec le service des sports d'RFI. Alejandro, merci d'avoir été quelques instants avec nous par téléphone. On continue à parler football et on va revenir. Ce sera à mon avis la toute dernière question en lien avec la Coupe du Monde de football. Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Juan.
Alors Nestor nous appelle, je ne sais pas d'où d'ailleurs. J'ai Nestor, la ville, deux points d'interrogation. Ah, Djamena me dit-on dans le casque. Bonjour Nestor.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Nous vous écoutons, quelles sont vos questions?
J'ai deux questions à vous poser à propos de la Coupe du Monde de football. La première question, quel est le montant de la prime destinée aux vainqueurs de la Coupe du Monde, bien entendu, versée par la FIFA? Et si les équipes qui arrivent en demi-finale perçoivent aussi une prime?
Alors, Christophe Diremzian, on va déjà répondre à cette première question. Christophe Diremzian, c'est vrai que toutes les équipes qui participent, finalement, à la Coupe du Monde de football, perçoivent une prime?
Eh oui, pas seulement les finalistes, les demi-finalistes, les quarts de finalistes. Toutes les équipes participent au pactole qui est donné par la FIFA chaque année. Pactole en augmentation de 37% par rapport à 2010, c'est à signaler. L'Allemagne, à tout seigneur, tout honneur, championne du monde, va recevoir 25 600 000 euros au titre des résultats. Ce qu'on appelle la prime de performance pour schématiser. Les Argentins finalistes vont toucher 18 300 000 euros, les Pays-Bas 16 millions d'euros, troisième, le Brésil quatrième, va un peu se consoler quand même de son mondial complètement raté avec un joli chèque de 14 600 000 euros, les quarts de finalistes dont la France 10 millions d'euros, chacun par équipe évidemment qualifié, les huitièmes de finalistes Algérie, Nigeria 6 600 000 euros chacun, et puis toutes les équipes éliminées au premier tour, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana 5 800 000 euros chacune. On rajoute également une prime de participation qui est fixe pour toutes les équipes, 1 100 000 euros. En fait, c'est un défraiement de tous les frais qui ont été engagés par les sélections et par les fédérations nationales pour l'hébergement, les camps de base et la préparation des matchs. Et puis on rajoutera aussi une petite prime qui n'est pas forcément signalée à chaque fois, c'est la prime qui est destinée aux clubs dont les joueurs ont disputé le mondial.
Ah, eux aussi, parfois.
Ils ont droit effectivement à leur quote-part dans le butin. C'est une somme globale d'encore 51 millions d'euros qui est versée à titre de ce qu'on va appeler la contribution des clubs pour la participation à l'événement.
En tout cas, le chiffre à retenir, le chiffre remporté par la Fédération allemande de football, 25 600 000 euros.
Énorme. Et juste à signaler que par rapport à l'Espagne qui avait été championne du monde 2010, l'augmentation est d'environ 3 millions d'euros, l'Espagne 22 600 000 euros en 2010.
Voilà, tout ça est bien précis. Nestor, vous avez d'autres questions?
Oui, s'il vous plaît, Monsieur Gomez, la deuxième question. À quoi servent ces primes versées à ces équipes et puis comment ces équipes utilisent ces primes, s'il vous plaît?
Alors, c'est, j'imagine, la fédération qui empoche le chèque.
Bien sûr. Le budget de la fédération est conditionné à ça. La somme reçue par chaque fédération, cette somme est intégrée au budget qui se sert de cet argent pour des dépenses particulières évidemment au développement du football dans les sélections nationales, mais aussi évidemment à la rétribution individuelle des joueurs, ces fameuses primes pour les joueurs qui sont négociées avant le début de chaque compétition. Pour vous donner un exemple, l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France ont touché 93 000 euros pour leur participation en quart de finale. Et puis, on ne va pas oublier les Allemands. Eux, c'est 300 000 euros par joueur.
Ils ont bien fait de partir au Brésil.
Ils ont bien fait. Et certains sont même très, très généreux. Je vous donne un exemple. Mesut Özil, le milieu de terrain de l'équipe d'Allemagne, qui a décidé de reverser l'intégralité de cette somme pour le financement d'opérations chirurgicales de 23 enfants brésiliens très malades.
Voilà. Effectivement. C'est très bien de l'avoir signalé parce j'ai vu avant de venir dans ce studio la page Facebook de l'émission, comme tous les matins, effectivement, un internaute nous demandait si c'était vrai ou pas, ou si c'était une rumeur, donc vous le confirmez. Merci beaucoup Christophe Diremzian. Nestor, bonne journée à Djamena. Si vous souhaitez d'ailleurs réécouter cette émission pour réécouter peut-être certaines explications, n'hésitez pas, RFI.fr, c'est 24h sur 24, et je vous rappelle que certaines des réponses des journalistes d'RFI sont publiées en version écrite sur le site internet de RFI. Vous allez dans la rubrique du côté de chez Juan, et vous cliquez sur Hebdo et vous aurez donc toutes ces informations. Restez avec nous, tout de suite, le journal est dans 10 minutes. On continue à vous donner la parole, la libre antenne.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.